Chapitre 4. Apprendre à disparaître. Pour être convaincant, un mensonge doit contenir un minimum de vérité. Une goutte de vérité suffit en général, mais elle est indispensable, comme l'olive dans le martini. Sacha Arango. 1. Marc Karadec sentait des papillons virevolter dans son ventre, comme s'il avait 15 ans et qu'il se rendait à un premier rendez-vous amoureux. La même peur, la même excitation. Un flic reste un flic. La photo des trois cadavres carbonisés, le sac rempli à craquer de billets, les faux papiers, la double vie d'Anna, à nouveau l'adrénaline du chasseur courait dans ses veines. Depuis qu'une balle perdue l'avait mis sur la touche, il n'avait plus frissonné de ce plaisir particulier qu'ont les vrais flics de terrain, les arpenteurs de bitume, les renifleurs, ceux qui ne rechignent pas au labeur que nécessite toute traque, les chasseurs. En quittant l'immeuble d'Anna, Raphaël et lui avaient décidé de se séparer pour mener chacun ses investigations. Et Marc savait exactement quelle piste il voulait creuser en premier. La butte aux cailles, la rue de la Glacière. Il connaissait le coin comme sa poche. Il profita d'un feu rouge pour faire défiler ses contacts sur l'écran de son téléphone et s'arrêta sur celui qu'il cherchait. Mathilde Francins. Lui-même était surpris d'avoir encore ses coordonnées, après toutes ces années. Il composa le numéro et reconnut avec satisfaction la voix qui lui répondit dès la première sonnerie.
« Marc, ça fait si longtemps !»«
Salut ma belle, tu vas bien j'espère ? Toujours à la sécu ?»«
Oui, mais j'ai pu enfin me tirer de la CPAM d'Evry. Je bosse dans le 17e maintenant, centre des Batignolles. Je pars à la retraite en mars. »«
Vivement la quille alors. Dis-moi, tant que t'es encore en poste, tu pourrais me faire une recherche sur...
Je me disais bien que ton appel pouvait pas être purement amical. »
Une fille du nom d'Anna Becker. J'ai son numéro, si tu veux bien le noter.
Le feu passa au vert. Tout en redémarrant, il attrapa la photocopie qu'il avait pliée dans sa poche et dicta le numéro de sécu à Mathilde.
C'est qui ? 25 ans, métisse, une belle fille qui termine ses études de médecine. Elle a disparu, et je donne un coup de main à sa famille pour la retrouver.
En freelance ?
En bénévole. Tu sais ce qu'on dit, flic un jour, flic toujours.
Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste ?
Je suis preneur de tout ce que tu pourras récupérer.
Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je te rappelle.
Marc raccrocha, satisfait. Prochaine étape, Philippe Lelièvre. En faisant une recherche sur son téléphone, il avait constaté que Lelièvre figurait sur les pages jaunes en tant que dentiste. Son cabinet se situait au même numéro que le logement loué par Anna au tout début des années 2010. Boulevard de Port-Royal, il aperçut les marquises de verre de la station de RER, puis, plus loin encore, la façade végétale de la closerie des Lilas. Il mit son clignotant pour tourner avenue de l'Observatoire et dépassa la fontaine et sa horde de chevaux marins qui s'ébrouaient au milieu des jets d'eau. Il se gara sous les marronniers, claqua la portière et prit le temps de terminer sa cigarette, le regard flottant de l'autre côté du jardin, où les piliers et les croisillons tout en briques rouges du centre Michelet rappelait les couleurs chaudes d'Afrique et d'Italie. En observant distraitement les jeunes enfants qui se défoulaient sur le terrain de jeu, Karadec fut cueilli par ses propres souvenirs. À l'époque où il habitait boulevard Saint-Michel, il lui arrivait de venir jouer ici avec sa fille. Une période bénie, dont il n'avait compris la valeur que plus tard. Il cligna des yeux, mais loin de se dissiper, les images se multiplièrent, d'autres lieux, d'autres joies, avec en bande-son le rire de sa fille, lorsqu'elle avait 5 ou 6 ans. Ses glissades en toboggan, ses premiers tours de manège au Sacré-Cœur. Il la revit en train de sauter pour attraper des bulles de savon. Il la revit dans ses bras, sur la plage de Palombaggia, les yeux levés vers le ciel, à montrer du doigt les cerfs-volants. Passé un certain âge, un homme n'a plus peur de rien, à part ses souvenirs. Où avait-il entendu ça ? Essaya-t-il de se remémorer en écrasant sa clope sur le trottoir. Il traversa la rue, sonna à l'entrée de l'immeuble et monta les marches au pas de course. Comme le font certains flics, il avait conservé sa carte qu'il brandit sous les yeux de la jolie brune de l'accueil.
« BRB, mademoiselle, je souhaiterais m'entretenir avec le docteur. »«
Je vais le prévenir. »
C'était bon de retrouver les vieilles sensations, et les réflexes d'autrefois. Le mouvement, une certaine façon de s'imposer, l'autorité que constituait le sésame tricolore. Il patienta debout, accoudé au guichet de la réception. Le cabinet dentaire avait dû être rénové récemment, car il sentait encore la peinture fraîche. C'était un espace qui se voulait à la fois high-tech et chaleureux. Comptoir et fauteuil en bois clair, mur de verre et paravent en bambou. En fond sonore, une musique apaisante évoquait le reflux des vagues, enrobées de flûtes et de harpes romantiques. Insupportable. Contrairement à ce qu'il s'était imaginé, le lièvre était un jeune dentiste qui n'avait pas encore franchi le cap de la quarantaine. Tête ronde, cheveux coupés courts, lunettes à monture orange qui encerclaient des yeux rieurs. Sa blouse à manches courtes laissait voir un impressionnant tatouage de licorne courant sur son avant-bras.
« Reconnaissez-vous cette femme, docteur ?»
demanda Karadec après s'être présenté. Il tendit au médecin son téléphone portable qui affichait une photo récente d'Anna envoyée par Raphaël. Le lièvre répondit sans hésitation.
« Bien sûr. Une étudiante à qui j'ai loué l'une de mes chambres de bonne il y a 4 ou 5 ans. Anna... quelque chose. »
« Anna Becker. »
« C'est ça. Si je me souviens bien, elle faisait sa médecine à la fac Paris-Descartes. »
« De quoi vous souvenez-vous d'autre, justement ?»
Le lièvre prit le temps de fouiller dans sa mémoire.
« De pas grand-chose. »
« Cette fille, c'était la locataire parfaite. Discrète, jamais un loyer en retard. Elle payait en liquide, mais j'ai tout déclaré au fisc. Si vous en voulez la preuve, je demanderai à mon expert comptable de vous... »«
Ça ne sera pas nécessaire. » « Elle recevait beaucoup de monde ?»«
Personne dont je me rappelle. Elle donnait l'impression de bosser jour et nuit. »«
Mais pourquoi cet interrogatoire, capitaine ?» Il lui arrivait quelque chose ?
Karadec se massa l'arête du nez et éluda la question.
Une dernière chose, docteur. Savez-vous où habitait Anna avant d'être votre locataire ?
Bien sûr, c'est mon ex-beau-frère qui lui louait une chambre.
Le flic fut traversé par un léger courant électrique. Exactement le genre d'information qu'il était venu chercher.
Manuel Spontini, c'est son nom, compléta le toubib. Après le divorce, il a été obligé de vendre son appartement de la rue de l'université et la chambre de bonne qui lui était rattachée.
Celle dans laquelle vivait Anna ?
C'est ça. Ma sœur savait que je cherchais un locataire, c'est elle qui a donné mes coordonnées à Anna.
Ce Spontini, où puis-je le trouver ?
Il tient une boulangerie, avenue Franklin Roosevelt, mais je vous préviens, c'est un sale type. Ma sœur a attendu trop longtemps avant de le quitter.
2. Lassé de guetter un taxi porte d'Orléans, je m'étais rabattu sur le bus 68.
« Arrêt rue du Bac ? Vous y serez dans moins de 20 minutes !»
m'avait promis le chauffeur. Je me laissais tomber sur un siège. J'étais abasourdi, dévasté, proche du chaos. Je repensais à tout ce que j'avais découvert en quelques heures. La photo des 3 cadavres, le 500 000 d'euros planqué dans la cloison, les faux papiers... Tout cela était si loin de l'image de la jeune femme que je connaissais. L'étudiante en médecine bûcheuse, la pédiatre modèle, attentive et douce avec les enfants, la compagne joyeuse et sereine. Je me demandais quel événement avait pu faire à ce point dérailler la vie d'Anna. Je m'efforçais de me ressaisir et profiter du trajet pour potasser le site internet de ma prochaine destination, le lycée Sainte-Cécile. Réservé aux filles, l'institution était une structure catholique un peu particulière, un petit établissement hors contrat, ne dépendant pas de l'éducation nationale, mais qui, à l'inverse de nombreuses boîtes à bac, obtenait des résultats à l'examen très flatteurs, en particulier dans la section scientifique. Le côté religieux de l'école n'était pas une posture. En plus de la messe bi-hebdomadaire et des groupes de prière, les lycéennes devaient participer à une catéchèse tous les mercredis après-midi et prendre part à plusieurs actions caritatives. Le chauffeur ne m'avait pas menti. Il n'était pas encore 11 heures lorsque j'arrivais rue du Bac. Saint Thomas d'Aquin, le cœur du Paris chic, celui de l'aristocratie et de ses hôtels particuliers, celui des ministères et des immeubles bourgeois en pierre de taille, aux toits d'ardoise et aux façades immaculées. En quelques pas, j'avais rejoint la rue de Grenelle. Je sonnai et montrai mes papiers au concierge. Derrière la lourde porte en arc de cercle, se cachait une cour pavée, verte et fleurie, plantée de prunus et de lauriers. Organisée en carré, comme un cloître, elle abritait une fontaine en pierre qui donnait à l'endroit des airs de jardin toscan.
Une cloche discrète sonna l'heure du changement de salle. Dans le calme, la cour fut alors traversée par de petits groupes de lycéennes, portant des jupes plissées bleu marine et des vestes brodées d'un écusson. La verdure, le murmure du point d'eau et les uniformes catapultaient le visiteur loin de Paris. On était dans les années 1950, tour à tour en Italie, à Aix-en-Provence ou dans un collège anglais. Pendant quelques secondes, je pensais à la cour de mon lycée, Salvador Allende, dans l'Essonne. Début des années 1990, à 1000 lieues de ce cocon. 2000 élèves parqués dans un enclos de béton. La violence, la drogue, l'horizon bouché. Les profs qui cherchaient tous à se barrer. Les rares bons élèves qui se faisaient chambrer et tabasser. Une autre planète, une autre réalité. Une sale réalité que j'avais fui en écrivant des histoires. Je me massais les paupières pour éloigner ces souvenirs et me renseignais auprès d'un jardinier qui arrosait un massif de sauge.
Le responsable de l'établissement, c'est Madame Blondel, notre directrice. C'est la dame là-bas, devant le tableau sous les arceaux.
Clotilde Blondel. Je me souvenais d'avoir lu son nom sur le site web. Je le remerciai et me dirigeai vers la directrice. C'était la femme que j'avais vue sur la photo de classe, trouvée chez Anna. La petite cinquantaine, élancée, vêtue d'un tailleur en tweed léger et d'un polo de coton stretch couleur terre de sienne. Clotilde Blondel portait bien son nom. Blonde, lumineuse, entre Greta Garbo et Delphine Seyrig. À contre-jour, sa silhouette poudroyait dans les particules dorées de cette fin d'été, comme une apparition céleste. Sa main était posée sur l'épaule d'une élève. Je profitai de leur aparté pour l'observer davantage. Des traits délicats, sans âge. Une grâce naturelle, dépourvue d'arrogance. Elle était à sa place dans ce jardin, entre la statue de la Vierge et celle de Sainte Cécile. Elle dégageait quelque chose de très maternel, une proximité rassurante, une solidité. La jeune fille à qui elle parlait buvait d'ailleurs ses paroles, énoncées d'une voix à la fois douce et profonde. Dès qu'elles eurent fini leur discussion, je m'approchai pour me présenter. « Bonjour, madame, je suis... » Un éclat d'émeraude brilla dans ses yeux. « Je sais parfaitement qui vous êtes, Raphaël Barthélémy. » Déstabilisé, je fronçai les sourcils. Elle continua. « D'abord parce que je suis l'une de vos lectrices, mais surtout parce que, depuis 6 mois, Anna n'a que votre nom à la bouche. » Je peinais à cacher ma surprise. Clotilde Blondel semblait s'amuser de ma confusion. De près, elle m'intriguait encore plus. Un visage ciselé, un parfum de lilas, des mèches solaires qui balayaient ses pommettes hautes. « Madame Blondel, est-ce que vous avez vu Anna récemment ?»« Nous avons dîné ensemble la semaine dernière, comme tous les mardis soirs. » Je tressautais. Depuis que je la connaissais, Anna prétendait passer ses mardis soirs à la salle de sport. Mais je n'étais plus à ça près. Clotilde saisit néanmoins mon malaise. Raphaël, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez qui je suis, n'est-ce pas? En fait, pas vraiment, je suis là parce que je suis inquiet pour Anna. Je lui tendis la pochette plastifiée. C'est cette photo qui m'a permis de remonter jusqu'à vous. Où avez-vous trouvé ça? Dans l'appartement d'Anna. Elle a forcément une signification puisque c'est le seul cliché qu'elle garde chez elle. Elle fit mine de s'offusquer. Vous avez fouillé chez elle sans sa permission? Laissez-moi vous expliquer. En quelques phrases, je la mis au courant de la disparition d'Anna, tout en passant sous silence les raisons de notre altercation. Elle m'écouta, sans s'émouvoir. Si je comprends bien, vous vous êtes disputé avec votre fiancé, et pour vous donner une leçon, elle est rentrée sans vous à Paris. J'espère au moins que ça vous mettra du plomb dans la cervelle. Je n'étais pas décidé à me laisser faire. Je pense que vous sous-estimez la gravité de la situation. La raison de ma présence ici dépasse le cadre de la dispute conjugale. À l'avenir, je vous conseille fortement d'éviter de fouiller dans ses affaires. Je connais Anna et je vous garantis que c'est le genre de choses qu'elle ne va pas apprécier. Sa voix avait changé. Plus dense, plus rauque, moins fluide. Je crois, moi, que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait. Une goutte d'encre noire se dilua dans ses pupilles, éteignant l'éclat de son regard. « Reprenez votre photo et partez !» Elle tourna les talons, mais j'insistai.
J'aimerais au contraire vous parler d'une autre photo. » Comme elle s'éloignait, je haussais la voix pour faire claquer ma dernière question. « Madame Blondel, est-ce qu'Anna vous a déjà montré un cliché représentant trois corps carbonisés ?» Quelques lycéennes se retournèrent. La directrice fit volte-face. « Je crois qu'il vaut mieux que nous montions dans mon bureau. »